Siete dei segreti più germe ieri. E come sai, se passi con sa, nel caso del sonno, è Chris Brandon, Chant Bitello, il bidon di bottiglie, di bitello, bide. Le bottiglie bide sono Chant, il anterre sulle racine di scena. E il giusto termine, se poema, quando l'avete reinvoyé in Polonia, avec son fils aîné, le rescapé de sa famille. Et ils sont tatoués le jour même. Et après la guerre, une femme a récupéré ce poème. Et maintenant, il y a aussi des histoires de poètes qui sont aventureuses, comme le dit les autres, ou même plus. Et la première chose que j'ai fait en tant que lecteur de Yiddish, c'était de traduire ce poème sur la destruction qui arrive à transformer la destruction en chant. Ce que doit faire, c'est que la cible, le résultat majeur de la littérature, transformer les histoires, les tragédies, les événements de l'histoire en matériel, une règle de transmission agréable pour les générations, supportable, transformable, qui peut être transformé et élaboré dans ce produit final qui est la littérature, qui reste la littérature, qui a le dernier mot, qui arrive à avoir le dernier mot.
Eli, les histoires des poèmes et des bouteilles, il y aurait beaucoup à dire à propos au XXe siècle. C'est également dans des bouteilles et dans le sable que Yanis Ritsos cachait ses poèmes lorsqu'il était dans le terrible camp de Makronissos avec ses camarades. Vous avez écrit un texte court, je ne sais pas s'il a été traduit en français, 2 pages sur la poésie, qui est magnifique. Et vous dites à la fin, la poésie ne sauve pas le monde, mais elle a le pouvoir de sauver nos oreilles. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rapport à la poésie?
La poésie du XXe siècle, pas la poésie de Dante, mais la poésie de mon siècle, ça a été le format de combat des littératures, la poésie. Elle a réussi à être face aux crises, aux massacres, aux destructions. J'ai eu un ami poète à Sarajevo. Pendant les années de guerre, je suis allé souvent là comme chauffeur de certains convois d'aide. Et là, j'ai connu ce poète de Sarajevo. Il s'appelle Izet Sarajevic.
Il est traduit en français, c'est remarquable.
Il avait 20 ans plus que moi. Maintenant, je suis en train de le rattraper parce qu'il est mort. Et je suis mort dans le 2002. Et alors, nous étions amis. Et il me racontait ce qu'il faisait pendant la guerre. Pendant la guerre, il restait là. Donc, il n'avait pas profité des invitations à aller chez quelques universités, quelques collègues. Il a voulu rester là parce qu'avec ses poèmes d'amour, il s'était fiancé des générations de Sarajevo. Alors, il disait, je suis responsable du bonheur. J'étais responsable du bonheur et donc, je suis responsable aussi du malheur. Et sa responsabilité s'est réalisée restant là, sans bouger, en faisant la queue pour quelqu'un avec ses citoyens sur un trottoir devant une fontaine ou devant un four qui recevait un peu de blé. Et il disait qu'il avait, pour se chauffer pendant les années de guerre, les hivers bosniaques et balkaniques, qu'il s'était chauffé en mettant toute sa bibliothèque dans le feu. Comment est-ce dans le pont? Ah, la poêle. Dans un poêle. Mais page pour page, parce que les livres sont difficiles à brûler. Ils résistent bien à la brûlure, à l'incendie. À la maison, j'avais des livres de mon père qui avaient résisté à la destruction et à l'incendie. Il était un peu brûlé sur le retour, mais à l'intérieur, il était parfaitement lisible. Et alors, il a détruit tout ça pendant les années, il a détruit avant tous les livres des philosophes. La deuxième année, il a brûlé toute la littérature. Et la troisième année, il a brûlé tout le théâtre. Et la quatrième année, il fallait brûler la poésie, mais la guerre finit. Alors, il a gardé la poésie parce que pendant que les autres pages de la littérature fournissaient de la calorie matérielle, la lecture de la poésie fournissait, lui, un peu de calories supplémentaires. Lui était indispensable de lire de la poésie pour se réchauffer mieux. Et alors, dans Sarajevo, on faisait des soirées de poésie. Les gens manquaient de tout, mais ils allaient écouter des poètes dans un trou, dans un sombre. Cette récit durait toute la nuit. Les gens avaient besoin de quelques mots qui étaient capables d'être à contrepoids de ce qu'il passait, de l'air du malheur qui les faisait oublier pendant cette lecture et cette soirée leur problème et leur destruction. Et alors, Isel Sarajevo disait à la fin de cette expérience qui a fait le travail nocturne pour empêcher l'arrêt du cœur de notre monde, nous, les poètes. Donc, dans le XXe siècle, les poètes ont fait le travail nocturne pour empêcher l'arrêt du cœur du monde.
Alors, je vais... me saisir de ces propos pour une question qui sera adressée aussi bien à Eri qu'à Marcel Cohen. Comment expliquer, comment comprendre un phénomène incompréhensible qui est le suivant? C'est que le XXe siècle, si on regarde bien, a été un siècle le plus extraordinaire pour la poésie. Si on se place à l'échelle de notre planète, il y a une quantité de poètes considérables. Je crois qu'il n'y en a jamais eu autant d'aussi considérables et aussi nombreux. Donc, on pourrait s'attendre à ce que cette puissance, cette présence forte de la poésie ait changé quelque chose dans les consciences et fait qu'elle soit présente parmi nous. Or, lorsque l'on regarde la situation dans les comptes rendus littéraires, dans l'édition, dans l'audience de la poésie, on a au contraire le sentiment qu'on a traversé 5 ou 6 siècles d'absence totale de la poésie, au point que le souvenir même de cette chose-là se serait effacé dans les consciences. Comment est-ce que ce paradoxe vous frappe? Est-ce que ça peut vous inspirer une réflexion?
Des poètes ont déjà répondu à cette question. Il y a les pessimistes et les optimistes. Le pessimiste, c'est Eliot, disant que si on n'avait pas écrit un seul poème, l'histoire de l'humanité aurait sensiblement été la même. Alors je ne me souviens plus qui est l'optimiste. S'il y a un seul lecteur pour un poème, c'est quelque chose, c'est une petite lueur qui persiste et qui va se répandre, comme Éric de Lucas le faisait remarquer, qui va se répandre. Elle n'est donc pas belle. Mais je voudrais dire que j'admire beaucoup le fait qu'on ait à brûler la poésie à Sarajevo, parce que, comment dire, c'est ce qui a le plus abouti, le poème. C'est aussi les poètes qui vont le plus loin et le plus rapidement possible. C'est le vrai thermomètre des mentalités. Je pense que la littérature aujourd'hui, c'est d'abord la poésie. Je suis heureux de voir que Éric de Lucas a les mêmes prévenances vis-à-vis de la poésie. Je crois que la poésie, aujourd'hui, est irremplaçable. Elle est difficile, Mais je crois que je voudrais me référer au mot d'Adorno concernant la musique de Schoenberg. Il dit « Elle honore l'auditeur parce qu'elle ne lui concède rien. » Bon, voilà. Pas de fioriture, plus de fioriture, etc. L'essentiel de la forme et du fond. Je crois que c'est la tâche de la poésie. Je crois qu'elle est intéressante pour cela.
Et
la poésie, donc, c'est une, on recourt à la poésie par besoin, d'urgence. C'est pour un secours. Là où il n'y a plus aucun mot qui peut souffrir, il arrive, la poésie arrive. Et alors, parce que ce diable devient le 20e siècle, était le siècle qui est des immenses migrations d'êtres humains, qui a déplacé le nombre majeur d'êtres humains, et qui partait d'un continent, qui se déplaçait d'un continent à l'autre, avec un peu de bagages, sûrement sans livre, et avec peu de crayons et de stylos, et donc il y avait peu d'espace pour écrire. Et même dans les prisons, dans les ghettos, dans les exils, il y avait peu de bagages, peu de possibilités d'écrire. Un autre poète que j'ai connu là, dans la Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie, qui s'appelait... Bon, il a été un partisan. La Yougoslavie était le seul pays qui s'est libéré tout seul de l'occupation nazie, sans Américains et sans Russes. Et alors, il était un combattant partisan, il avait vaincu sa bataille. Il avait écrit des poèmes qu'il avait laissés au moment où il avait été arrêté, et ses camarades ont fumé ses poèmes. Il avait manquait de papier, et alors ils ont employé ces papiers pour fumer. Et après, il a été emprisonné par Titus
à Goliotok,
dans le pire des renfermements d'après-guerre. Il a écrit ses poèmes en cachette, en allant le cacher sous les pierres, avec du crayon sur du papier de ciment.
Sac de ciment.
Et il est allé les chercher après la guerre, il allait retrouver ses poèmes cachés comme ça. Donc, la poésie a été toujours un format de clandestin auquel recourir pour une condition d'extrême nécessité et d'urgence. C'est pour ça qu'il y a heureusement qu'elle a peu de lecteurs. Ça veut dire que les lecteurs, les personnes qui n'aiment pas la poésie, sont des personnes qui se trouvent bien à l'aise et n'ont pas besoin de la poésie.
Je voudrais juste ajouter un mot, c'est que la poésie a précédé la prose et de très loin. Donc voilà, on a commencé à écrire de la poésie, parce que c'est plus facile à retenir.
Merci. Alors, je vais me tourner vers Daniel Valin pour une question. Eric Delouk a nous parlé de ce poète de Sarajevo, Izat Sarajevich, qui se sentait responsable
un peu du bonheur. Et vous, vous êtes resté depuis le début fidèle à cette œuvre, comme traductrice, c'est grâce à vous qu'elle vient vers nous. Je voulais vous demander de nous parler bonheur, peut-être, d'une traductrice.
Oui, c'est vrai, c'est un grand bonheur. Un grand bonheur d'abord, premièrement, d'avoir découvert le premier livre de Eric, qui a été une véritable révélation pour moi quand on me l'a passé, et qui a déclenché en moi la nécessité, l'urgence de traduire ce livre, alors que je n'étais pas une traductrice de métier avant. Et j'ai un peu même forcé les choses pour trouver l'éditeur qui avait, comme disait hier, qui avait acheté les droits de ce livre. Et ça s'est trouvé comme ça. J'ai adoré traduire, traduire ce livre parce qu'il me correspondait aussi, parce que cette musique était une musique tout à fait nouvelle pour moi. Elle y écrit un peu comme il parle, vous allez l'entendre, il parle un petit peu d'une façon syncopée, assez rude, et il écrit un petit peu comme ça, il a ce rythme de phrase. Et puis, bien maintenant, ça fait 22 ans que nous nous connaissons, 24 livres que j'ai traduit, et toujours avec le même bonheur, parce que c'est une découverte permanente, on ne peut pas s'habituer du tout à traduire elle. C'est une écriture qui ne coule pas vraiment, qui pose toujours des problèmes, des problèmes de langue. Et c'est aussi un jeu d'arriver à trouver le mot qui va bien coïncider en français, sans trop choquer, même au niveau de la syntaxe, parce que ce n'est pas une syntaxe facile, mais de trouver ce chemin de crête sur lequel on doit rester.
Est-ce que vous avez parfois des échanges en travail de traduction?
Énormément. Elle y relit toutes mes traductions et je lui pose énormément de questions et peut-être encore plus au moment où je suis soumise au correcteur. Parce que bon, les correcteurs sont un peu déroutés. Et je recommence à lui poser des questions, me demander est-ce que j'ai bien compris et c'était bien ça. Oui. On est vraiment en collaboration et de nous, nous sommes la société tandem.
Alors, eh bien, je suis très heureux qu'après les propos qui ont été tenus, on termine par un poète dont le livre a reçu le prix Nathan Katz du patrimoine. Un poète qui est mort il y a 100 ans, puisqu'il est mort au début de la Première Guerre mondiale. Il avait 31 ans. Est-ce que vous pourriez nous le présenter?
Ernst Haller est né à Weimar en 1883. Sa vie a été relativement courte, je vais vous demander Jean-Baptiste Parra. Il est tombé en 1914, près d'Ypres, un 30 octobre, il avait 31 ans. C'était un fils du haut fonctionnaire de l'Empire allemand, puisque l'Alsace était allemande à l'époque. Et c'était un brillant étudiant, passionné de philologie, mais aussi de culture européenne. À l'époque, on n'en parlait peut-être pas encore sous ces termes. C'était un lecteur de Peggy, de Francis Jeanne, qui l'a traduit, qui lisait avec ferveur. Il avait envie de partager. C'était aussi un philologue, exégète de Wolfram von Eschenbach, spécialiste des traductions de Shakespeare faites par Wieland, qui sont peut-être un peu moins connues dans le domaine germanique que celles du tandem Schlegel-Tieck. Et c'était un poète, on pourrait dire, engagé, à sa manière, toujours à courir les revues, à fonder des revues, à participer à des publications, à mener une réflexion sur l'échange, la culture, le passage. Une trajectoire qui s'est arrêtée un peu tôt, à l'âge de 31.
Alors on le rattache à l'expressionnisme, le livre que vous avez traduit est son grand livre. Est-ce que vous pourriez nous évoquer ce livre?
Alors ce recueil s'appelle Der Aufbruch en allemand, le départ. C'est comme ça que nous l'avons traduit, c'est ce qui correspond dans le mieux à ce terme. Et c'est effectivement...
Quelles sont les plus la diversité des sens du mot en allemand?
Aufbruch, ça peut aussi être la mobilisation.
Est-ce que ça peut être le renouveau aussi? Non.
Bah, c'est pas le sens que je verrais.
Non, non, pas là, mais... D'accord.
Mais il y a une volonté, effectivement, de s'affranchir de quelque chose et d'aller vers autre chose. C'est vraiment l'idée de trajectoire et de mouvement. Et on sent, dès la première étape de ce départ, que la destination est inconnue. Et va se former au fil de la création, de l'écriture. Ça, ce serait donc pour la signification de l'œuvre. C'est une œuvre à la fois très dense dans sa respiration, parfois un peu whitmanienne. Il y a aussi beaucoup de vers libres qui, moi, m'ont fait parfois penser à l'œuvre.
commencé à traduire Whitman en France? Est-ce qu'il était déjà traduit en allemand, de connaissance, ou est-ce qu'il a connu Whitman par des traductions françaises ou directement en anglais?
Alors là, vous posez une colle, le traducteur n'est pas toujours un spécialiste de l'histoire littéraire. Merci Daniel Malin de sourire à cette remarque.
Mais vu qu'il est allé à Oxford, il parlait probablement l'anglais, il a pu avoir accès à Whitman en anglais.
Oui, l'œuvre, il y a une grande respiration, et en même temps, parfois, des soubresauts, des saccades, une véritable intranquillité, à la fois dans le sens, dans la quête de sens du poète, et aussi dans ce qu'il impose d'une certaine manière à son lecteur, parce que autant, par exemple, c'est l'apaisement et le recueillement, et à d'autres endroits, vous êtes presque pris à la gorge, le traducteur qui se livre au corps à corps de la traduction de ses poèmes, passe parfois des heures agitées.
Alors, je pense qu'il est peu connu, enfin, disons, des lecteurs qui disent son nom français, ou en tout cas pas l'allemand, mais il y avait quand même eu quelques traductions par un ex-éminent poète, merveilleux poète, qui était Guy Lévick, qui aimait beaucoup ce poète-là. Est-ce qu'il y a une difficulté à traduire un merveilleux poète une fois qu'il a déjà fait l'objet, en tout cas partiellement, d'une traduction?
Alors la difficulté, je dirais plutôt de l'ordre personnel, voilà. C'est se dire on va se placer après quelqu'un d'éminent, tout le monde connaît qui dit que personne ne connaît celui de Fabry. Et après, c'est ça aussi la traduction, et plus particulièrement la traduction d'œuvres lyriques. C'est un appel au dialogue renouvelé et perpétuel. Aucune traduction n'est définitive. Et c'est un vrai bonheur de se dire que, peut-être 10 ans, quelqu'un d'autre retraduira en gros le départ, et il aura peut-être un autre titre. Et ça sera peut-être un bonheur absolu d'imagination, ce titre. Et je l'espère, je l'appelle de tout cœur, et j'espère que vous serez là pour découvrir ça.
Est-ce que vous pourriez choisir un poème et nous le lire?
Je vais vous proposer un poème assez emblématique, je dirais, de cette respiration très ample, de ce mouvement incroyable qui préside à l'écriture d'Ernst Stadler. C'est un poème parmi ses plus connus. C'est la traversée nocturne du pont du Rhin à Cologne. Je vous le lirai en français. Mon allemand a écrit, je pense que je m'en sors, mais je ne vais pas vous imposer une récitation. L'express hésite, le don de l'obscurité et s'y heurte. Pas la moindre étoile. Le monde n'est plus qu'un étroit couloir de mine ceinturé de nuit, où les postes d'extraction sectionnent de brusques horizons de leur lumière bleue. Cercle de feu, de lampes sphères, toi, cheminée, vapeur qui fume et s'écoule pour quelques secondes, avant le retour à l'obscurité. Comme si nous descendions dans les entrailles de la nuit prendre notre poste. Viennent des lumières chancelantes, déboussolées, à jamais solitaires, puis d'autres, pour se réunir et se resserrer. Des façades, carcasses grises, gisent découvertes, blêmes dans la pénombre, mortes, qu'adviennent quelque chose. Oh, je le sens, dans mon crâne si lourd, l'angoisse chante dans mon sang, le sol soudain gronde comme une mer. Nous volons, soulevés, souverains, et fendons l'air arraché à la nuit au-dessus du fleuve, très haut, aux courbures de ces millions de lumières, sentinelles muettes devant ce défilé étincelant, les eaux lourdement floues. pas de vers l'ultime, vers ce qui bénit, vers l'aspect de l'environnement.